le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ils sont étudiants, salariés, artisans et ils se regroupent par centaines sur les réseaux sociaux. Qui sont ces Français qui veulent partir combattre en Ukraine? Le président Zelensky souhaite créer une légion internationale et vous l'entendrez, certains sont déjà prêts ici à le rejoindre. Une semaine d'invasion dans le pays et pour la première fois, les autorités locales reconnaissent qu'une grande ville est tombée aux mains des Russes. Nous ferons le point sur cette offensive. Alors qu'Emmanuel Macron prévient, cette crise aura des conséquences en France. Pas encore candidat, le président se pose en protecteur des Français et en défenseur d'une Union européenne plus puissante. L'Europe, face à cette invasion russe en Ukraine, on en reparle aussi à 8h20 avec votre invité Jérôme.
Avec Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, ancien ministre des Affaires étrangères néerlandais, il est l'invité du grand entretien. Vous lui posez vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, Éric Dupond-Moretti, convoqué pour la deuxième fois devant la Cour de justice de la République. Une mystérieuse communauté catholique du Pas-de-Calais accusée de maltraitance sur des enfants. Un livre enquête sort aujourd'hui. Et Jean-Pierre Pernaut, raconté par lui-même après la mort du journaliste de TF1. Vous entendrez comme il était fier de son JT de 13h.
France Inter.
Dès les premières heures du conflit, le président ukrainien a lancé cet appel. Les étrangers aguerris et prêts à se battre sont les bienvenus en Ukraine. Zelensky veut même créer une légion internationale. Alors les ambassades d'Ukraine un peu partout en Europe ont pris le relais avec messages sur les réseaux sociaux et formulaires en ligne pour tous les volontaires. Un appel entendu apparemment par des centaines de Français qui se retrouvent ces derniers jours sur des groupes Facebook. Parmi eux, certains se préparent déjà très concrètement à rejoindre le front. Rémi Brancato.
À 22 ans, Hugo, étudiant dans la région lilloise, a vite pris sa décision quand la Russie a envahi l'Ukraine.
J'ai voulu agir d'une façon ou d'une autre. Le seul moyen, c'est de m'y rendre directement. J'ai fait 6 mois d'armée. Du coup, j'ai quelques connaissances que je voudrais éventuellement mettre à profit de l'armée ukrainienne.
Il partira dans les prochains jours, dit-il, jusqu'à la frontière polonaise. Mais pas question d'entrer en Ukraine sans être en règle.
On doit forcément intégrer les forces armées ukrainiennes en fait. Sinon on est considéré en tant que mercenaires et là pas de retour possible.
Il a créé un groupe Facebook et c'est son frère Arnaud qui le coordonne.
Je m'attendais à ce qu'il y ait des volontaires qui partent là-bas, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant.
Plus de 3000 membres, pas tous sérieux, se sont inscrits, des anciens militaires ou de simples civils. Des convois s'organisent.
Les gens partent avec leur voiture. On met les conducteurs en relation avec d'autres personnes pour charger leur voiture en matériel et en personnel.
Car pour ces volontaires, l'attaque de l'Ukraine concerne directement la France.
L'Ukraine, c'est à 2 heures de Paris. Une guerre peut en déclencher une autre.
Joe, 25 ans, n'a pas de formation militaire. Il partira pour aider en deuxième ligne.
J'ai un CAP en plomberie, j'ai un CAP en soudeur. J'ai fait du terrassement, j'ai fait fossoyeur dans les pompes funèbres. S'il faut creuser des tranchées, j'ai le coup de pelle. Ma candidature, elle a été retenue par rapport à mes compétences professionnelles.
Pour le moment, il coordonne quelques groupes et ne donne pas la date de son départ pour rester discret.
Ces Français qui veulent aller se battre en Ukraine, témoignage recueilli par Rémi Brancato. Dans l'autre sens, ils sont 1 million d'Ukrainiens à avoir déjà fui le pays pour sauver leur peau depuis le début de cette guerre. Cela fait ce matin une semaine, tout juste, que l'invasion a commencé. On a beaucoup parlé d'une offensive plus compliquée que prévue pour Moscou. Mais ce matin, l'une des grandes villes ukrainiennes est complètement aux mains des Russes. Bonjour Vanessa Descoureaux.
Bonjour.
Envoyée spéciale de France Inter en Ukraine. Oui, pour la première fois, les autorités locales sont bien forcées de reconnaître que l'armée russe a investi une ville importante dans le sud du pays.
Il s'agit de Kherson, 290 000 habitants, et le maire de la ville a lancé un appel désespéré pour demander l'ouverture d'un couloir humanitaire pour sortir les morts et les blessés de sa ville. Il a raconté aussi plus tôt qu'il avait discuté avec, je cite, des invités armés. Ce sont ses propres mots, mais il n'a pas écrit les troupes russes dans le message qu'il a rédigé à sa population. Kherson, c'est un port, donc par définition, c'est une ville stratégique, et en réalité, ce front sud avance plutôt vite, parce que, en résumé, vous avez donc ça pilonne fort à l'est, ça regroupe les troupes massivement autour de Kiev. On a d'ailleurs entendu cette nuit une très forte explosion ici dans la capitale. Mais au sud, le front avance et avance assez vite par ailleurs. C'est ce front qui est poussé par les forces russes de Crimée. Et au sud-est, il y a un autre port qui lui est beaucoup plus proche de la frontière russe, qui est sous le feu depuis plusieurs jours. C'est Marioupol. Pour le moment, la ville parvient encore à s'extirper de cette tenaille russe, mais uniquement par son accès nord. Et si Moscou en prenait le contrôle, Marioupol ouvrirait tout simplement un couloir aux forces russes pour renforcer leurs appuis militaires dans les prochains jours.
Vanessa, la toute petite lueur d'espoir ce matin, c'est peut-être cette deuxième séance de négociation qui est prévue entre les Russes et les Ukrainiens aujourd'hui.
On va rappeler que la première séance avait eu lieu en début de semaine. Ça avait duré 6 heures pour ces pourparlers au Bélarus, pays devenu officiellement depuis force co-belligérante aux côtés de Moscou. Mais ce qui inquiète le plus les Ukrainiens ici, c'est que ces précédentes négociations n'avaient débouché que sur une seule chose en réalité. Ça avait permis à Moscou de gagner du temps avec la diplomatie. Pourquoi ? Eh bien pour réorganiser ses troupes. Et c'est à partir de ce moment précis que le front Est notamment a commencé à vivre le cauchemar que la ville de Kharkiv endure depuis plusieurs jours. Donc, beaucoup, beaucoup de méfiance sur le terrain devant ce nouveau rendez-vous diplomatique.
Vanessa Descouroux en direct d'Ukraine avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Merci à tous les deux. À l'instant, le ministre français des Affaires étrangères estime possible que le pire soit devant nous dans cette guerre. Nous sommes rentrés dans une logique de siège, selon Jean-Yves Le Drian, interrogé sur France 2.
Et la Russie est de plus en plus isolée sur la scène internationale.
Hier, 141 des 193 pays membres de l'ONU ont voté en faveur d'une résolution exigeant que Moscou cesse immédiatement le recours à la force. Parmi eux, la Turquie. La Turquie qui navigue pourtant entre deux eaux ces derniers jours. Ankara a clairement condamné cette invasion russe. Le pays a aussi bloqué l'accès des navires de guerre à la mer Noire. Mais il ne veut pas non plus trop se fâcher avec Moscou. Et la position d'Erdogan pose clairement question à Nandlower.
Dans la guerre en Ukraine, la position d'Ankara n'est pas ambiguë, elle est inconfortable, pour ne pas dire intenable. Pas ambiguë dans le sens où la Turquie est du côté de l'Ukraine, à la fois par principe, les autorités turques dénoncent depuis le début une attaque inacceptable, mais aussi pour tout ce que cette guerre apporte d'instabilité à la fragile économie turque et à sa région, celle de la mer Noire, dont les équilibres géopolitiques se trouvent bouleversés. La Turquie, membre de l'OTAN et très proche de l'Ukraine, elle lui a vendu des drones de combat, des drones qui frappent aujourd'hui même des cibles russes. Ce qui rend la position de la Turquie intenable, c'est qu'elle veut soutenir l'Ukraine sans couper les ponts avec la Russie. De l'économie à l'énergie, en passant par la Syrie, les relations russo-turques sont un assemblage d'intérêts imbriqués les uns dans les autres, dépendants les uns des autres, et les officiels turcs font remarquer que les effets d'une rupture avec la Russie seraient bien plus immédiats et douloureux pour leur pays que pour n'importe quel pays occidental. Raison pour laquelle la Turquie exclut d'infliger des sanctions économique à Moscou. Anne-Laure Istanbul, RFI pour France Inter.
Continuer à parler avec Poutine tant que c'est encore possible. Emmanuel Macron non plus ne veut pas complètement couper les ponts, même s'il a eu des mots durs contre le dirigeant russe hier soir lors de son allocution télé. Poutine accusé d'avoir choisi seul et délibérément la voie du conflit armé. La Russie n'est pas l'agressée, elle est l'agresseur, selon le président français, qui tient aussi à rappeler que les Occidentaux ne sont pas en guerre contre Moscou. Et puis le chef de l'État, Simon Le Baron, se pose en protecteur des Français face aux conséquences de cette crise.
C'est un engagement qui vaut bien au-delà de la présidentielle.
Je n'ai et n'aurai qu'une boussole, vous protéger.
Face aux conséquences immédiates, pour l'agriculture, pour l'industrie, la croissance et pour nos comptes en banque.
Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risque de s'alourdir encore.
Emmanuel Macron promet à nouveau un plan de résilience économique et sociale. Mais il y a aussi les conséquences durables.
La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable. Elle est remise en cause, sous nos yeux.
Un changement d'époque dans lequel il voit une validation de son discours pour la souveraineté énergétique ou la défense européenne, projet qu'il promet de poursuivre, car s'il jure de ne pas enjamber l'élection...
Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel.
Il regarde évidemment beaucoup plus loin.
Votre attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la place de la France dans le monde. Je ne cesserai jamais de les défendre et de les porter haut en votre nom.
Protection et stature internationale, deux piliers d'une très prochaine candidature.
Et candidature toujours pas officialisée, il lui reste 36 heures pour le faire. Emmanuel Macron qui veut faire du sommet de l'UE à Versailles la semaine prochaine un grand rendez-vous pour rendre donc l'Europe moins dépendante de l'extérieur, pour sa sécurité, pour son approvisionnement aussi en matières premières. Car oui, vous l'entendiez, il y aura des conséquences à court terme pour le pouvoir d'achat des Français, prévient le chef de l'État. La Russie et l'Ukraine sont des gros exportateurs de blé et de maïs. Les cours sont en train de flamber. Alors faut-il craindre notamment une hausse des prix du pain? Louis Fontaine a posé la question dans une boulangerie parisienne.
Dans l'arrière-boutique de sa grande boulangerie, Emmanuel Martin scrute au quotidien les cours du blé. Cela fait plus de 25 ans qu'il est boulanger-pâtissier.
C'est vrai qu'il y a une augmentation de à peu près 50-60 euros la tonne de blé. De toute façon, ici, on paye par rapport aux cours mondiaux. Donc, dès qu'il y a un impact quelque part, c'est une répercussion. Mais pour l'instant, nous, on n'est pas impacté.
Pour l'instant, le prix de la baguette n'a pas bougé chez lui. Il est même stable depuis 10 ans. Mais cette fois-ci, la guerre en Ukraine risque bien de changer la donne.
Malheureusement, c'est parti pour durer et des situations comme ça, moi personnellement, je n'ai jamais vu. Moi, je ne peux plus supporter une nouvelle hausse de matières premières. Je pense que ce serait au moins 10 centimes.
10 centimes sur une baguette tradition qui en coûte déjà 1,20 €. C'est loin d'être anodin pour Antoine qui prend son pain ici tous les midis. Il en appelle au gouvernement.
Si les prix augmentent, on sera bien obligé de le faire. Mais je pense que le gouvernement aussi a un rôle à jouer avec un blocage des prix. C'est un produit essentiel de base.
Depuis le début de l'année, le prix du blé a augmenté de 25%. Une hausse qui ne devrait pas se calmer dans les jours à venir, selon la Fédération des meuniers de France.
Louis Fontaine dans le 15e arrondissement de Paris.
Et les conséquences économiques de ce conflit en Ukraine, on en parle à 8h20 dans le grand entretien avec notre invité Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne. 8h11 sur Inter, Alexis Morel. Des centaines de manifestants réunis hier soir en Corse.
À Corte, Bastia et Ajaccio, où des poubelles et des palettes ont brûlé devant la préfecture de région après la violente agression d'Ivan Colonna dans la prison d'Arles. Le militant indépendantiste condamné pour l'assassinat du préfet Erignac se trouve toujours ce matin dans le coma entre la vie et la mort. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, fustige la responsabilité accablante de l'État. Le ministère de la Justice a saisi l'inspection générale. Le garde des Sceaux lui est attendu aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. Éric Dupond-Moretti est convoqué par cette instance chargée d'enquêter sur les membres du gouvernement. Il devra à nouveau s'expliquer sur des soupçons de prise illégale d'intérêt. Une affaire Ariane Grissel dans laquelle il a déjà été mis en examen.
Cette convocation est la deuxième d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. La première audition, en juillet dernier, a duré près de 6 heures, à l'issue desquelles le ministre a été mis en examen. Et il est fréquent dans ce type de dossier, souvent complexe, que les magistrats instructeurs fixent plusieurs rendez-vous. Il s'agit de déterminer si Éric Dupond-Moretti a profité de sa nomination au gouvernement pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il a eu des différends quand il était encore avocat. Notamment lorsque, devenu garde des Sceaux, il a demandé une enquête administrative contre 3 membres du parquet national financier. Ils avaient analysé ses factures téléphoniques détaillées, ses fadettes, alors qu'il était encore au barreau. Une première enquête de l'inspection générale de la justice, menée sous la ministre précédente, avait conclu qu'il n'y avait rien d'illégal dans ses analyses. Éric Dupond-Moretti, lui, se dit serein face à sa mise en examen et explique voir dans cette procédure la conséquence d'une guerre déclarée par certains représentants de syndicats de magistrats.
Ariane Grissel. Que s'est-il passé pendant près de 60 ans au sein du village de Riaumont dans le Pas-de-Calais? Maison de redressement, puis foyer d'accueil et enfin école privée hors contrat. Cette communauté catholique traditionnaliste a accueilli des centaines d'enfants, de garçons jusqu'en 2019. Aujourd'hui fermée, elle est dans le viseur de la justice. 11 responsables sont mis en examen pour viol, agression sexuelle et maltraitance. Un livre-enquête qui sort aujourd'hui tente de faire la lumière sur ces 6 décennies. La journaliste Ixchel de la Porte a recueilli de très nombreux témoignages d'Elphine Evenou.
1969, Bruno Raoult a 6 ans quand il arrive au village de Riaumont. Contexte familial difficile, il va y rester presque jusqu'à sa majorité.
Ça pouvait aller du coup de poing, la claque, coup de pied, ceinturon, martinet. C'était divers quoi les sanctions. Jusqu'au moment où il y a eu le viol, et là, que dire?
Il a alors 14 ans, il lui aura fallu plus de 40 ans pour porter plainte en novembre dernier.
Moi, mon but, c'est que déjà cette personne-là, qu'on l'écarte des enfants. Je me sens dans l'obligation de dénoncer, parce que je sais qu'il est encore en contact avec des enfants. Et dire à tous ces garçons de Riaumont qu'ils ont été abusés, n'ayez pas peur.
Bruno n'est pas le seul à avoir dénoncé ces faits. La justice travaille sur le dossier Riaumont depuis 2013. 11 personnes sont mises en examen. Impossible de connaître pour l'instant le nombre exact de victimes, explique la journaliste Ixchel Delaporte.
C'est incroyable de se dire que ce système a pu perdurer pendant 60 ans. Le but de ce livre, c'est de montrer qu'il s'agit bien d'un système. Le rôle de l'État, il est central, surtout sur la première période, les 20 premières années, puisque c'est l'État qui a payé Riaumont pour que Riaumont s'occupe des enfants.
En attendant un possible procès, l'enquêtrice continue de recevoir des témoignages. Bruno, lui, n'a pas encore trouvé la force de lire le livre dans lequel il témoigne aujourd'hui, non pas par peur, précise-t-il, mais par dégoût.
Les enfants martyrs de Riaumont, c'est publié aujourd'hui aux éditions La Brune. Après Facebook, Google parvient à un accord avec la presse française sur la rémunération des contenus journalistiques après 2 ans de bataille acharnée. C'est ce qu'on appelle les droits voisins. En clair, Google devra rémunérer les journaux français quand des extraits de leurs articles apparaissent dans les résultats du moteur de recherche.
30 ans de rendez-vous télévisé chaque jour à la mi-journée.
La météo pour commencer, puis un journal largement consacré à la vie des régions plutôt qu'à Paris, aux villages plutôt qu'aux grandes villes. C'est ce qu'on retient des hommages nombreux à Jean-Pierre Pernaut, le journaliste star de TF1, mort hier à 71 ans. Pas une tradition locale ne lui était étrangère, réagit par exemple le Premier ministre Jean Castex. Nous avons justement retrouvé une archive qui dit toute la fierté avec laquelle Jean-Pierre Pernaut mettait en valeur les terroirs.
La directive que m'a donnée la direction de TF1 à l'époque, Patrick Lelay et Étienne Moujotte, c'était de faire un journal plus proche des gens. C'était facile à dire, mais je ne l'avais jamais entendu avant. Moi, j'arrêtais pas de râler dans les couloirs, parce que originaire d'Amiens, vivant toujours à Amiens et faisant des allers-retours tous les matins, ça m'énervait que les journaux télévisés ne soient que parisiens, institutionnels, ne sortaient de Paris que quand il y avait le Festival de Cannes. Le premier événement du 13h, c'était la suppression du direct au Conseil des ministres le mercredi. Et là, on m'a traité de fou absolu. C'est un crime de lèse-majesté de supprimer le Conseil des ministres du mercredi. Donc l'institutionnel, on le met derrière le quotidien des Français.
Cette archive de Jean-Pierre Pernaut retrouvée par Héloïse Roger. À 9h40, Eva Rock reviendra sur le parcours du journaliste de TF1 dans l'instant M.
Merci à vous Alexis Morel pour ce journal. La météo précisément, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Stéphanie, la France est coupée en deux.
Avec côté ouest, une perturbation qui s'enfonce dans l'intérieur des terres, mais des hautes pressions qui bloquent son avancée à l'est. Résultat, au lever du jour, les pluies sont régulières de la Bretagne au Cotentin, épargnant tout de même le Finistère. Du Pays Basque au Hauts-de-France, le ciel encombré de brouillard et de brume se dégage en allant vers l'est du Golfe du Lion et des Pyrénées pour devenir très ensoleillé en bord de Méditerranée. Cet après-midi, la perturbation va réussir à atteindre la Charente-Maritime, la Vendée et les Pyrénées-Atlantiques, versant des pluies plus régulières vers la Bretagne et les Pyrénées-Atlantiques. Et même si le ciel restera encombré en Gironde et sur le Pas-de-Calais, la couverture nuageuse aura tendance à se morceler pour offrir à la façade est quelques belles éclaircies. Seule la pointe sud-est et l'île de Beauté supportent encore des intempéries, pluie faible et neige sur les reliefs des 1300 mètres.
Et des gelées ce matin dans l'est.
Oui, alors c'est un peu plus doux à l'ouest, 4 à 8 degrés cet après-midi, la douceur s'installe, 14 sur la moitié nord, 12 à 16 au sud.
Merci à vous Stéphanie Fromentin, à tout à l'heure. 8h17, Géopolitique.